الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je relis le hadith qu'on est en train d'expliquer. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. Donc, ce sahabi rapporte qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers un endroit qui s'appelle Hunayn. Donc, ils étaient partis pour une bataille. Et ils étaient des nouveaux convertis. Et ils sont passés devant des mushrikines, donc des polythéistes, qui avaient un arbre auquel ils accrochaient leurs arbres, qu'ils appelaient Dhat Anwat. فَمَرَنَّا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِجْعَلْ لَنَا ذَات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَات أَنْوَاطٍ. Donc ensuite ils sont passés à côté d'un arbre semblable et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous un arbre tel que eux ils ont, sachant que eux ils l'adoraient, c'est-à-dire ils accrochaient leurs arbres pour avoir la baraka de cet arbre. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu israel li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun. Le prophète, quand ils ont dit ça, il a dit Allahu Akbar. Il a dit voici les traditions, c'est-à-dire les traditions de ceux d'avant. Il dit vous avez dit par Allah, comme ils ont dit les fils d'Israël à Moussa, donne-nous une divinité, comme ils ont des divinités. Moussa a dit vous êtes un peuple d'ignorants. Ça, c'est un verset du Coran. Donc, on s'est arrêté là. Donc, Cheikh Itiya, à propos de Qala innakum qawmun tajhalun, dans le verset du Coran, quand Moussa il a dit à son peuple, vous êtes un peuple d'ignorants, vous êtes un peuple qui ignorait. Donc Cheikh il dit Ya'ni azamat Allah, il dit c'est-à-dire la grandeur d'Allah, c'est-à-dire vous êtes un peuple qui ignorait la grandeur d'Allah. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi ay halikun wa batilun mudmahilun wa za'ilun ma kanu ya'malunahu min ibadati al-asnam. Donc la suite du verset, elle dit que le sens de la suite du verset, c'est que ce qu'ils faisaient comme adoration des statues, c'est quelque chose de vain, de nul. وَلَمْ يَكْفُرُوا بِطَلَبِهِمْ لِأَنَّهُمْ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ. Ça, c'est intéressant. Il dit, les sahaba, ils n'ont pas mécru en demandant cet arbre. Et c'était quoi la cause? On l'avait déjà mentionné ça. Ça fait partie des excuses dans le fait d'être excusé par rapport à la mécréance. C'est qu'ils étaient nouveaux dans l'islam. Donc Cheikh il dit c'est pour ça que le prophète il les a pas déclarés mécréants, c'est parce qu'ils venaient de se convertir. Donc un nouveau converti il est excusé vis-à-vis de certaines choses sur lesquelles un musulman commun il sera pas excusé. Et aussi parce qu'ils l'ont pas fait, c'est-à-dire ils ont posé la question mais ils l'ont pas fait, ils l'ont pas mis en pratique. Ensuite il dit wa Israël huwa Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al Khalil. Donc il dit Yaqub c'est Israël. Parce que pourquoi il explique c'est quoi Israël? Parce qu'il dit, il parlait des fils d'Israël, Banu Israël. Donc il dit Israël, c'est Yaqub. En fait, c'est le prophète Yaqub, le fils de Ishaq. Donc on va dire Jacob, entre guillemets, le fils de Isaac, ils disent, fils d'Abraham, Ibrahim. Abul Asbat il Ithnay Ashar, c'est le père des 12 tribus, donc les 12 tribus d'Israël. Kana fil Qarni Tasi'a Ashar, qabla al-Masih. Et il vivait au 19e siècle avant Isa. وَغَالِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ هُمُ الْيَهُودِ. Il dit la plupart des fils d'Israël sont les juifs. وَمَعْنَ إِسْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Israël? Ça veut dire Abdullah, serviteur d'Allah. Parce qu'en fait le il qu'on trouve dans Jibra'il, Israël, il ici ça, Allah alim, ça veut dire Allah en hébreu. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit la tarkabuna sunana man kana qablakum ou alors sanana man kana qablakum. Le prophète il a dit aux compagnons vous allez suivre les voies de ceux d'avant. Donc dans le commentaire Cheikh il dit bidam misin ay la tattabi'unna antum ayyuha al-ummah turuq al-yahudi wa an-nasara wa manahijahum wa af'alahum. C'est-à-dire vous allez suivre ma communauté, vous allez suivre les juifs et les chrétiens dans la voie qu'ils ont emprunté et dans leurs actes. ويجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم. Donc dans le hadith on peut dire sunan ou alors sanan. Les deux ça veut dire la voie. وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فركبوا طرق من كان قبلهم. Et ça c'est arrivé parce que les musulmans effectivement ils ont emprunté les voies de ceux d'avant. وفي الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة بالقذة. Le prophète il a dit dans le Bukhari Muslim, vous allez suivre la voie de ceux d'avant de la même façon que les plumes qui sont dans les flèches d'un arc, elles sont égalisées, c'est-à-dire vous allez les suivre dans tout ce qu'ils font. وفي رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. Dans une autre version il a dit vous allez suivre les voies de ceux d'avant en pan par en pan et coudée par coudée. L'en pan c'est chibre, c'est ça, dhira c'est ça, c'est-à-dire chaque chose qu'ils vont faire vous allez le faire. وهو خبر معناه الذم. Et quand le prophète il a prédit ça, c'est pour blâmer cette chose. C'est pas il a dit ça en disant vous allez faire ça, il y a pas de mal. Là, en fait, c'est pour les prévenir, c'est pour les blâmer. وفيه علم من أعلام النبوة. Et donc c'est un signe de la prophétie, parce que le prophète il a prédit ça, effectivement, ça s'est passé. وأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وفيه الخوف منه. Et aussi, ce hadith il montre que le polythéisme il peut arriver dans la communauté musulmane. Contrairement à ceux qui disent la communauté, elle ne commet pas de polythéisme. Ce hadith il montre que le polythéisme il peut être commis par des gens qui se disent musulmans. Et ça implique qu'on doit craindre le polythéisme. وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده. Et aussi, ça nous montre ce hadith que l'être humain il peut penser quelque chose de quelque chose que c'est quelque chose qui le rapproche d'Allah parce qu'il le trouve bien, alors que cette même chose c'est quelque chose qui l'éloigne d'Allah d'un grand éloignement. Comme c'est arrivé à ces sahabas nouveau convertis avec l'arbre. Ensuite il dit وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا. Et dedans il y a l'interdiction du fait de ressembler aux gens de la jahiliya, c'est-à-dire les gens d'avant l'islam, et aux gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens dans ce qu'ils font. Sauf si un verset du Coran ou un hadith, c'est-à-dire un dalil, il nous montre que telle ou telle chose qui fait partie de la religion des juifs et des chrétiens, elle fait aussi partie de notre religion. Comme par exemple le fait de jeûner Ashura. Ça les juifs ils le faisaient, et le prophète il l'a fait. Donc ça fait partie aussi de la religion. Pour l'exemple d'Ashura, ça c'est moi qui rapporte ça, c'est pas dans le livre. Ensuite il dit وأنما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا فإنما قاله لنا لنحذره فلا يجوز التبرك بالصالحين. Et que si Allah il a blâmé les juifs et les chrétiens, c'est pour nous mettre en garde de tomber dans ce dans quoi ils sont tombés. Et que donc il est interdit de chercher le baraka auprès des pieux. At-tabarruk bis-salihin. Comme ceux, par exemple, ils vont voir un savant ou un homme pieux, puis il les suit comme ça. لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا أبي بكر ولا غيره. Donc écoutez bien pourquoi, parce que ça c'est une grosse choubaha. Je le dis ou pas, aslama.com. C'est-à-dire en fait ça c'est une choubaha qui est très répandue chez les musulmans, le fait de atabarruk, à tel point que dans l'histoire d'islam même des ulama ils l'ont permis, c'est-à-dire ils se sont trompés, ils ont permis le fait de chercher la baraka auprès des hommes pieux. Donc écoutez ici ce qu'il dit ce cheikh pour interdire ça. Il dit premièrement parce que les compagnons ils l'ont pas fait, donc ça montre que les musulmans ils doivent retourner d'abord si un acte il est légiféré ou pas. S'il est légiféré, comment? Shubha, pardon, ouais. C'est un argument qui met des doutes, quoi. Une mauvaise idée, c'est-à-dire je te dis une idée, et elle te met des doutes dans ta tête. C'est ça une shubha. Pour ça que je le traduis pas, parce que c'est un mot, il est bien, quoi. C'est dur à traduire. Puis, donc voilà, il dit, premièrement, parce que les compagnons du prophète, ils l'ont pas fait, si ce n'est avec le prophète. Ils l'ont pas fait ni avec Abu Bakr, ni avec Omar. Or, comme ils disent les ulama, la okana khayran, la sabakuna ilayhi. Si c'était un bien, ils nous auraient devancé dans ce bien. Parce que qui c'est qui cherche le plus le bien? Est-ce que c'est nous ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Forcément, c'est les compagnons du prophète, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayrun nasi qarni. Les meilleurs gens, ce sont ma génération. c'est-à-dire lui et les compagnons et ses compagnons. Donc si c'était un bien, ils l'auraient fait. Et ils l'ont fait qu'avec le prophète, ils ne l'ont pas fait avec Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. C'est-à-dire quand le prophète est mort, si c'était permis de faire ça, les sahaba, ils cherchaient à emprunter tous les chemins du khayr. Donc forcément, ils l'auraient fait avec Abu Bakr. Ils auraient essuyé Abu Bakr, etc., etc. وَلَا فَعَلَهُ التَّابِعُونَ مَعَ قَادَاتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ. Et les tabi'in, la génération d'après les compagnons, ils ne l'ont pas fait avec les compagnons. Et ils ne l'ont pas fait avec les imams qui étaient les imams dans la science et dans la religion, comme Saïd ibn al-Musayyib, Mohamed ibn Sirin, Al-Hassan al-Basri. Les tabi'in qui étaient parmi les imams et les étudiants, ils ne faisaient pas ça ni avec les compagnons ni avec les grands savants parmi les tabi'in. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. Donc ça, écoutez bien, ça c'est un grand argument. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم pendant sa vie, il avait des spécificités, c'est-à-dire des choses qui sont propres à lui et qui ne sont pas pour les autres croyants. Par exemple, le prophète, il priait, il lui était obligatoire de prier la nuit. Or, ce n'est pas obligé pour le reste des musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait et il ne rompait pas le jeûne au Maghreb. Il continuait jusqu'au lendemain. Et ça, c'est interdit pour les musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait le droit de se marier avec plus que 4 femmes. Et ça, c'est interdit pour les musulmans. Donc, le prophète, il a des spécificités qui sont nombreuses. Donc, on ne peut pas associer quelqu'un avec le prophète dans une de ses spécificités. Donc on ne peut pas faire ce qu'on appelle Al-Qiyas. Al-Qiyas, c'est la comparaison. C'est-à-dire comparer quelqu'un parmi les imams de la religion et les savants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il n'y a pas de rapprochement entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mérite. Il n'y a personne qui arrive à la cheville du prophète dans le mérite. Donc s'ils n'arrivent pas à la cheville du prophète, encore moins ils sont au même niveau que lui. Donc retenez bien le raisonnement. وعدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب. Aussi, on ne peut pas être sûr à propos d'une personne que c'est un salih pendant son vivant. Même pas, tu me diras, même après sa mort. Si ce n'est ce que le prophète a vanté. C'est-à-dire une personne précise, on ne peut pas savoir s'il est pieux. Parce que le fait de s'assurer que c'est quelqu'un de pieux, on peut le savoir que si son cœur est pieux. Voilà. Or, personne ne voit les cœurs. Donc une personne, tu peux penser qu'elle est pieuse, mais être sûr qu'elle est pieuse, ça tu peux pas. Voilà, wa dhanna salaha shakhsin fala na'manu an yukhtama lahu bi khatimati su. Et même si on pensait qu'une personne elle est pieuse, si ça se trouve, il va finir mal, c'est-à-dire il va mourir innovateur ou non musulman ou dans les péchés. Donc c'est-à-dire tu le vois comme ça maintenant, mais tu sais pas comment quelle sera sa fin. ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه. Et aussi parce qu'on ne sait pas, peut-être que il est tenté par lui-même, c'est-à-dire il est imbu de lui-même. Il se voit pieux et il est impressionné par lui-même. Il est imbu de lui-même. Ça se voit pas quand tu le regardes. ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها. Donc ça, après il parle de la Kaaba. Donc on comprend pourquoi on n'a pas le droit de faire la baraka, de chercher la baraka chez les hommes pieux, comme en s'essuyant sur eux, ou en leur demandant par exemple de cracher dans ta main, tu me l'essuies, ou des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'était vrai pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, ils le faisaient avec le prophète, parce que Allah, il avait mis une baraka dans le corps du prophète, et donc ils cherchaient ça. Mais ils ne l'ont pas fait ni avec Abu Bakr ni Omar, et les tabi'in, ils ne l'ont pas fait avec les sahaba, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas comparer un homme pieux, que ce soit l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, avec le prophète. Le prophète, il a des spécificités. Parmi ses spécificités, le fait qu'il a de la baraka en lui, qui peut se décalquer. C'est-à-dire que si tu, par exemple, le prophète il crache dans l'eau et tu te laves avec, certaines personnes elles guérissaient, par exemple. Elles guérissaient avec ça. Ça c'est spécifique au prophète. Et c'est pas dans un autre. Donc on peut pas comparer l'imam Ahmed, l'imam Malik dans ça. On peut pas associer quelqu'un dans les spécificités du prophète. Donc on peut pas faire tabarouk avec autre que les hommes pieux. Et surtout qu'il rajoute qu'en plus la personne pieuse, toi tu peux penser qu'elle est pieuse, mais t'en es pas sûr. Tu fais que penser qu'elle est pieuse. En être sûr, il y a ça, il y a qu'Allah qui le sait. Ensuite, il dit wala yutabarraku bil ka'bati wala ghayriha saddan li dhari'ati ash-shirk. Et aussi, on ne cherche pas la baraka sur la Kaaba, par exemple, ou autre que la Kaaba, pour fermer la porte qui pourrait mener au shirk. Bal tanaza'a al-fuqaha'u fi wad'i al-yadi 'ala minbarihi sallallahu alayhi wa sallam. Lamma kana mawjoudan, fakarihahu malikun wa ghayruhu li'annahu bid'a, wa dhakara wa dhukira annahu lamma ra'a 'ata'an fa'alahu, lam ya'khudh 'anhu al-'ilm. Subhanallah. Il dit, là il ramène une autre question, il dit, les fuqaha, c'est-à-dire les ulama de la jurisprudence, ils ont mentionné que, ou plutôt ils ont divergé quant au fait de poser la main sur le minbar du prophète. C'est-à-dire, le minbar, c'est le, comme un petit meuble, on va dire, entre guillemets, et pour le prophète en l'occurrence, c'était un tronc d'arbre, sur lequel il se lève pour faire le discours du vendredi. Donc les ulama, ils ont dit, est-ce que tu peux poser la main dessus pour en espérer la baraka? Et donc, et là, ils ramènent que l'imam Malik, il a détesté ça, il l'a interdit parce qu'il a considéré ça comme une bid'a, une innovation. Et on raconte que il a vu Ata, donc Ata, ça c'est un tabi'i, et il a vu Ata le faire, et depuis qu'il a vu le faire, il a plus pris la science de Ata, l'imam Malik, dont se réclame ce que vous savez. Donc il ferait mieux de lire ça. Donc si l'imam Malik il empêche ça avec le minbar du prophète, alors qu'en est-il avec les hommes pieux dont on n'a aucune sûreté qu'ils soient des hommes pieux ou qu'il y ait de la baraka en eux? Ensuite, c'est un autre chapitre, il dit Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Chapitre 2 qui concerne le fait d'égorger pour autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah. Ay min al-wa'id 'ala dhalik wa bayan annahu shirkun akbar naqilun 'an al-millah li'annahu 'ibadatu min ajalli al-'ibadat وقربة من أفضل القربات المالية فصرفه لغير الله شرك. Donc il dit, en fait il va mentionner ici le châtiment qui est promis, comme quoi le châtiment est promis à celui qui égorge pour autre qu'Allah, et que celui qui fait ça il a commis du grand polythéisme qui le fait sortir de la religion de l'islam, parce que c'est une des adorations et une des plus, entre guillemets, une des plus belles adorations et une des plus méritoires, un des actes les plus méritoires pour se rapprocher d'Allah avec son argent. Parce qu'il y a des actes, des adorations qui concernent l'argent, comme les aumônes, et dhabh s'en fait partie, parce que le mouton, tu vas aller l'acheter avant de l'égorger. Donc le fait de la faire pour autre qu'Allah, c'est du shirk. كَمَنْ يَذْبَحُ لِقَبْرٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ مَلَكٍ أَوْ نَبِيٍ أَوْ جِنِّيٍ أَوْ لِطَلْعَةِ سُلْطَانٍ أَوْ لِلزِّيَارَانِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. Donc il dit, comme celui qui le fait pour une tombe ou pour un arbre ou une pierre et il cite, etc., les anges, les hommes pieux, ou alors pour le dirigeant. Certains ulama, ils ont mentionné, si par exemple quelqu'un y vient, un homme noble, et toi tu égorges devant lui, comme ils font les bédouins par exemple. C'est-à-dire les bédouins, quand ils ont un invité, ils vont égorger un mouton. Pourquoi? Pas pour adorer l'invité, pour le vénérer, pour dire que nous l'invité quand il vient, parce qu'un mouton c'est cher. Donc on l'égorge, c'est-à-dire pour l'honorer. Ça fait partie des beaux caractères des bédouins et des arabes en général. C'est-à-dire que même s'ils sont pauvres et qu'un voyageur y passe, ils vont l'inviter, ils vont égorger un mouton. Mais il y a une différence entre ça, qui est le fait d'honorer un hôte en lui donnant ce que tu as de meilleur, et le fait que si par exemple un notable y vient, le mouton, il l'égorge mais devant lui. Donc certains ulama, ils disent s'ils le font devant lui pour le grandir, eh ben, c'est du shirk akbar. Parce que ça, c'est un acte que tu as le droit de faire que pour Allah. Wa qawlillahi ta'ala. Donc ça, vous pouvez le trouver dans l'explication de Salih al-Shir, ce que je viens de dire là. Quand il parle des notables ou d'un dirigeant, il vient et les bédouins, ils sortent un mouton et les gorgent devant lui. Ça, Salih al-Shir, il a mentionné ce que je viens de vous dire. Wa qawlillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Donc là, il a mentionné la parole d'Allah qui dit « Dis ma salat », c'est-à-dire entre guillemets ma prière, « et mes nousouk ». Un nousouk en arabe ici, c'est les sacrifices. « Ainsi que ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers, sans associé. » Donc il va expliquer le verset, il dit « Ey » قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك المخلص لله ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة. Donc il dit, le verset il veut dire, dis au Mohammed, à ces polythéistes qui adorent autre qu'Allah et qui égorgent pour autre qu'Allah, dis-leur ma salat, c'est-à-dire ma prière, et mes nousouk, et il a expliqué nousouk par ce que j'égorge, c'est-à-dire mes sacrifices. Ainsi que ma vie et ma mort, c'est-à-dire ce que je fais pendant que je vis, c'est ce sur quoi je vis, la voie que j'emprunte en vivant, et ce sur quoi je meurs, c'est-à-dire la foi, l'iman et les bonnes actions, sont à Allah, le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire tout ça c'est sincèrement pour sa face. La sharika la, sans lui associer quoi que ce soit, dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans la foi et dans les bonnes actions. Et dans aucune catégorie des catégories d'adoration. Fassalatu ajallu al-ibadat al-badaniya wa an-nusuku ajallu al-ibadat al-maliya. Il dit la prière. Parce qu'ici, regardez, Allah, il a mentionné la prière et les sacrifices. Il dit la prière, en fait, c'est la plus grande adoration du corps. Et les sacrifices, c'est la plus grande adoration avec l'argent. فَمَنْ صَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْ وَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْ. Donc celui qui prie pour autre qu'Allah, il a commis du polythéisme, il a associé. Donc de même, celui qui égorge pour autre qu'Allah, il a associé. ومطابقة الآية للترجمة أن الله تعبد عباده بأن يتقرب إليه بالنسك كما تعبدهم أن يتقرب إليه بالصلاة. Donc pourquoi il a mis ce verset ici par rapport quel est le rapport entre le verset et le chapitre qui concerne les sacrifices faits pour Allah, c'est qu'Allah il a imposé à ses serviteurs de l'adorer avec les sacrifices de la même façon qu'il leur a imposé de l'adorer avec la salat. وَإِذَا تَقَرَّبُوا إِلَى غَيْرِهِ بِالذَّبْحِ فَقَدْ جَعَلُوا لَهُ شَرِيكًا فِي عِبَادَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ نَفَى أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ شَرِيكٌ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ. Donc s'il se rapproche d'autre qu'Allah avec l'égorgement, c'est-à-dire en sacrifiant une bête pour autre qu'Allah, donc ils lui ont mis un associé dans son adoration. Et c'est ce qui apparaît de sa parole la sharika la, c'est-à-dire sans associé à lui, parce que dans cette parole il a renié le fait qu'il est un associé dans les différentes adorations, notamment les sacrifices. Wa qawluhu, donc ça c'est après, en fait le verset il continue, il dit wa ana awwalul muslimin ay min hadhihi al-umma li'anna islam kulli nabiyyin mutaqaddimun 'ala qawmihi. فدلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك والقرآن كله يدل على ذلك. Donc quand il dit dans le verset وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ et je suis le premier des musulmans, c'est-à-dire de cette communauté, car dans son peuple un prophète c'est le premier qui rentre dans l'islam forcément. Et donc ce verset il montre que toutes les paroles de l'être humain ainsi que ses actes, qu'ils soient apparents ou cachés, il ne doit pas les vouer à autre qu'Allah. Et que si celui qui fait ça, il a commis du polythéisme, il a associé à Allah. Et tout le Coran il prouve ça. Donc ça c'est des versets courts et simples à apprendre pour débattre avec ceux qui disent qu'on a le droit d'égorger, etc. pour les tombes. وَقَوْلُهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Et aussi il a cité le verset qui dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, c'est-à-dire donc prie pour ton Seigneur ou prie ton Seigneur et inhar. Inhar en fait c'est comme الذبح, mais c'est pour les chameaux. الذبح c'est pour les moutons, tout ça c'est égorger un mouton, et النحر c'est pour les chameaux. En fait le chameau ça s'égorge pas, le chameau c'est tu prends comme un piquet, celui qui a déjà vu les bédouins faire ça, il le rentre dans le cou comme ça, il ressort tout de suite, c'est-à-dire un chameau ça s'égorge pas. Ça s'appelle un nahar. Donc il dit ya'ni la li ghayrihi. Donc il veut dire dans le verset prie pour ton Seigneur et égorge pour lui et pas pour autre que lui. Qala Sheikh al-Islam amarahu Allah an yajma'a bayna hatayn al-ibadatayn wa huma as-salat wa an-nusuk adallatan 'ala al-qurb wa at-tawadhu' wa al-iftiqar wa husn adh-dhann wa quwwat al-yaqin wa tuma'nina al-qalbi ila Allah wa ila ma 'adah. عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم إلى ربهم ولا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي. Je m'arrête là parce que c'est long. Donc il a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, Allah il a ordonné à son prophète de regrouper entre ces deux adorations qui sont la prière et al-nusuk, le sacrifice. Parce que ces deux adorations, elles montrent la proximité du serviteur vis-à-vis d'Allah et l'humilité du serviteur vis-à-vis d'Allah. Et elles montrent que, c'est-à-dire le serviteur quand il fait ça à Allah, quand il voue le sacrifice, il montre sa pauvreté et son besoin qu'il a d'Allah. Et aussi il montre ce qu'on appelle husnuddhan, c'est-à-dire le fait qu'il pense du bien d'Allah. En quoi l'égorgement ça prouve tout ça? C'est parce que quand tu égorges, tu dépenses quelque chose de tes biens. Et donc ça montre que, c'est-à-dire tu sacrifies pour Allah ce que tu as de plus cher. Et ça montre que tu n'as pas peur qu'Allah il va te donner la pauvreté parce que tu lui as sacrifié ce que tu as de plus cher. Donc tu penses du bien d'Allah. Ça c'est compris dans le nahar. C'est pour ça que vous lisez des fois, vous étonnez, vous dites pourquoi le fait de sacrifier une bête c'est une grande adoration. C'est parce que ça implique plein de choses dans le cœur. Ça implique la confiance en Allah, l'humilité devant Allah et le fait de sacrifier pour Allah ce qu'on a de plus cher. En pensant qu'Allah il va pas nous rendre pauvres ou quoi que ce soit parce qu'on lui a sacrifié ça. Et aussi ça implique, donc là c'est Ibn Taymiyyah qui continue, il dit une forte certitude et une tranquillité du cœur vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de ce qu'il a préparé, c'est-à-dire la récompense. Parce que bien sûr celui qui égorge un mouton et sachant le prix du mouton, il le fait que parce qu'il est sûr et certain qu'il va trouver la récompense d'Allah, contrairement aux gens de l'orgueil et aux gens qui se passent d'Allah et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'Allah et qui n'égorgent pas, qui ne font pas de sacrifice pour Allah parce qu'ils ont peur de la pauvreté. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي والنسك الذبيحة لله ابتغاء وجهه. Donc c'est pour ça qu'il a dit dans le verset précédent, dit ma salat et mes nusuk, et il dit nusuk c'est le fait d'égorger pour Allah en cherchant sa face. فالصلاه اجل ما يتقرب به الى الله. Donc la prière c'est la meilleure chose avec laquelle on se rapproche d'Allah. وما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال لا يجتمع له في غيرها. Et ce qui regroupe dans l'être humain comme crainte d'Allah et comme humilité dans la salat, ça se retrouve dans aucune autre adoration. Donc là il parle de la salat. كما يعرفه أهل القلوب الحية. Comme le sait ceux qui ont des cœurs qui vivent. وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. Ça c'est toujours Ibn Taymiyyah, il dit, donc il nous a parlé de la salat et maintenant il dit, et ce qui se regroupe dans l'être humain au moment où il égorge pour Allah et sacrifie, bien sûr si cela s'est accompagné de foi et de sincérité envers Allah, comme ce qui se regroupe donc au moment où il égorge, comme forte certitude et comme bonne pensée vis-à-vis d'Allah, il dit c'est quelque chose d'incroyable. Il dit, c'est en fait ce qu'il dit. Il dit, c'est incroyable ce qu'il y a dans, comme adoration du cœur dans l'égorgement, comme certitude. Mais il dit bien, à condition que ça soit accompagné de iman et d'ikhlas, c'est-à-dire de foi et d'ikhlas. Comment ça va être accompagné de foi ton égorgement? Par exemple, le jour de l'Aïd, quand tu égorges ton mouton, c'est en te rappelant que ça, c'est un ordre d'Allah. En te rappelant l'histoire de Ibrahim, alayhi salam. Quand Allah il lui a dit de sacrifier son propre fils, donc nous il nous a juste demandé de sacrifier des moutons et Ibrahim il allait le faire. Donc c'est comme ça que ça va être l'Iman, pas simplement parce que bah, mon grand-père il a dit aujourd'hui c'est l'Aïd, vas-y va acheter le mouton, on va lui faire sa fête vite fait. Ça c'est pas ça l'Iman, ça c'est la tradition. Ça, on fait ça nous, c'est pas Iman, c'est veut dire que ce qui nous pousse à le faire c'est l'ordre d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال.
Parce qu'il dit, si son âme qui aime les biens, qui aime l'argent, elle l'a laissé donner pour faire le sacrifice, c'est-à-dire pour acheter par exemple le mouton. Et ensuite il a tué l'animal alors qu'il l'aimait, parce que ça fait partie de ses biens. Le mouton, il fait partie de ses biens les plus chers. Et pourtant il le tue quand même. Et il dit alors, ça montre que c'est une des plus grandes adorations qui se fait par l'argent, parce que c'est un gros sacrifice. فدل على أنه عبادة من أفضل العبادات وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة. Il dit, ça montre tout ça que cette adoration, c'est une des plus grandes adorations. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il priait beaucoup et aussi il faisait beaucoup de sacrifices pour Allah. وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة وكذا النسك تضمن أمورا من العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. Donc la prière, elle contient beaucoup de différentes sortes d'adoration. C'est-à-dire, elle contient par exemple la patience, elle contient le khushu', la crainte, elle contient l'espoir, elle contient le ruku', l'inclinaison, elle contient la prosternation, elle contient la lecture du Coran. Il dit, de la même façon aussi, les sacrifices, ça contient beaucoup d'adoration du cœur. Il dit, donc on n'a pas le droit de l'avouer à autre qu'Allah. Et celui qui fait ça, il a mis un associé à Allah. Donc ça aussi, c'est une réplique à ceux qui disent, quand ils égorgent pour une tombe ou quoi, ils disent, mais ça, c'est pas du shirk. Ça, c'est mahabbatu salihin. C'est vrai, c'est mahabbatu salihin, d'accord. Mais c'est une mahabba mamnoua. Mahabba shirkiya. Parce que l'amour, il y a en diverses catégories. L'amour, c'est-à-dire ton cœur, et tu dois le maîtriser. Tu as le droit d'aimer les hommes pieux, et au contraire, c'est légiféré que le musulman, il aime les gens pieux. Mais si cet amour, il dépasse la limite, et il devient comme l'amour d'Allah, et il pousse la personne à s'humilier et à adorer la personne, l'homme pieux en question, eh ben c'est un amour qui est interdit. Donc c'est vrai, ce que vous faites, c'est de la mahabbatu salihin, mais mahabba shirkiya, laysat mahabba shar'iyya. C'est un amour polythéiste et non pas un amour qui est légiféré par l'islam. Ensuite il dit, وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. Donc là, c'est un hadith rapporté par Ali. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quatre paroles. Qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui donne refuge à un muhdith. Je ne le traduis pas parce qu'on va voir après l'explication. Et qu'Allah maudisse celui qui change manar al-ard. Manar al-ard, c'est par exemple, tu as un champ avec une limite, et ton voisin il a un champ, et toi tu viens et tu changes le trait pour que tu aies plus de champ que lui. C'est ça manar al-ard. Manar, c'est l'alamat, les signes qui délimitent les terrains. Donc le prophète, il a maudit celui qui change. Donc le hadith, il est dans Sahih Muslim. Il dit, اللعن الطرد والإبعاد عن ما ظن الرحمة ومواطنها. اللعن, ça veut dire quoi اللعن؟ اللعن, la malédiction, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah et éloigné des choses qui sont, c'est-à-dire des endroits ou des actes qui amènent la miséricorde d'Allah. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. Et اللعين والملعون, c'est quelqu'un qui mérite la malédiction ou alors sur qui on a appelé la malédiction. وَاللَّعْنُ مِنَ الْخَلْقِ السَّبُّ وَالدُّعَاءِ. اللعن, en ce qui concerne les êtres humains, c'est-à-dire quand un être humain est maudit, ça veut dire insulter ou alors invoquer Allah contre la personne. قال شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. Et Allah aussi, il maudit celui qui mérite la malédiction, de même qu'Allah yusalli, entre guillemets, il prie, mais Allah bien sûr il prie pas, c'est une mauvaise traduction, sur celui qui mérite as-salah. Et c'est quoi la salat venant d'Allah? C'est pas comme nous la salat, c'est le fait de prier Allah. Mais la salat d'Allah, comme quand on dit sallallahu ala nabi, qu'Allah prie face la salat, c'est-à-dire sur le prophète, ça veut dire qu'Allah il le vante. Il y en a, ils ont dit, ça veut dire aussi qu'Allah il lui fait miséricorde et il lui augmente le khayr. Parce que le mot salat, tu peux avoir plusieurs sens en arabe. قال في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. Donc il dit à propos de la parole d'Allah, wama uhilla bihi li ghayrillah, c'est-à-dire dans un verset où Allah dit il vous a interdit ce qui a été égorgé pour autre qu'Allah. Il dit ce qui est apparent du verset, c'est que ça concerne ce qui est égorgé pour autre qu'Allah, comme si par exemple quelqu'un il dit voilà un sacrifice pour telle chose, et que ce soit qu'il le prononce ou qu'il ne le prononce pas, c'est-à-dire il dédie cette dans son intention cet égorgement à autre chose. Il dit, ça, l'interdiction de cette chose-là, elle est encore plus claire que celui qui égorge pour une viande, pour manger la viande, et qui dit au nom de Jésus. C'est quoi la différence entre les deux? Le premier, il égorge pas pour la viande. Le premier, il égorge pour égorger, mais pour autre qu'Allah. Même s'il ne le dit pas, ça, c'est l'interdiction de ça, elle est plus évidente que celui qui égorge. Par exemple, un chrétien qui dirait au nom de Jésus. Mais il ne le fait pas pour adorer Jésus, il le fait pour manger. Comme nous, quand on dit Bismillah, pour égorger la bête qu'on va manger, c'est pas une ibada. C'est un simple acte qu'on pour manger. On ne le fait pas pour l'adoration, on le fait pour manger. Mais on dit Bismillah pour qu'elle soit licite. Donc si un chrétien il dit au nom de Jésus, c'est quoi le jugement de son égorgement? Il est haram, on n'a pas le droit de le manger. Mais ça, c'est interdit, parce qu'il a prononcé autre que le nom d'Allah en égorgeant. Mais le fait qu'une personne, par exemple, elle ne prononce pas le nom du wali, mais son intention, c'est que ça, c'est pour le wali, et non pas pour manger, ça, c'est pire. Parce que là, il a dédié l'égorgement, c'est une adoration, alors que celui-là, il l'a fait juste pour manger. فَإِذَا حَرُمَ مَا قِيلَ فِيهِ بِاسْمِ الْمَسِيحِ وَنَحْوِهِ فَلَأَنْ يَحْرُمَ مَا قِيلَ فِيهِ لِأَجْلِ الْمَسِيحِ أَوْ قُسِدَ بِهِ ذَلِكَ أَوْلَى. Donc il dit si quelqu'un quand il dit au nom de Jésus c'est interdit, alors celui qui dit c'est pour Jésus ou alors dans quelque chose ou pour autre chose, c'est encore pire. فَإِنَّ الْعِبَادَةَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَعْظَمُ كُفْرًا مِنَ الْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِ اللَّهِ. Parce qu'il dit le fait d'adorer autre qu'Allah, c'est pire, c'est une plus grande mécréance que je demander de l'aide à autre qu'Allah. وَعَلَى هَذَا فَلَوْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مُتَقَرِّبًا إِلَيْهِ حَرُمٌ. C'est pour ça que s'il égorge pour autre qu'Allah, en se rapprochant d'autre qu'Allah, sa viande elle est haram. Wa in qala fihi bismillah, même s'il dit bismillah. Donc c'est-à-dire il dit bismillah, mais dans son intention, il fait ça pour adorer le wali par exemple, pas pour la viande. Il le fait sous forme d'adoration. Mais il dit bismillah, là c'est haram. Parce que là il a voué une adoration à autre qu'Allah. Kama yaf'aluhu tawa'ifun min munafiqi hadhi al-umma. Il dit, donc là c'est Ibn Taymiyyah qui parle, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il dit comme le font une partie des hypocrites de cette communauté. Alladhina yataqarrabuna ila al-kawakib bidh-dhabh wal-bukhur. Comme ceux qui adorent les étoiles en égorgeant pour elles. Wa ma yaf'alu bi Makkah min adh-dhabh lid-jinn. Ou alors ceux qui égorgent dans la région de Mecca pour les djinns. Wa dhakara al-Marwazi anna ma dhubiha 'inda istiqbal as-sultan taqarruban ilayhi afta ahl Bukhara bi tahrimihi. Al-Marwazi, il a un livre, donc c'est dans les premiers siècles de l'islam, qui s'appelle As-Sunna. C'est un livre de référence dans la Aqida. Il a mentionné que celui qui égorge au moment de recevoir un souverain, un gouverneur, un souverain, un prince, etc., pour taqarruban ilayhi, c'est-à-dire pour se rapprocher de lui. Ahlu Bukhara, c'est-à-dire les gens de Bukhara. Bukhara, c'est en, je sais plus, en Turkménistan, Ouzbékistan, un des deux. Donc c'est là d'où il vient l'imam al-Bukhari, c'est en Ouzbékistan. Ils ont, les ulama de l'époque de ce pays, ils ont fait la fatwa que ça c'était haram, c'est-à-dire la viande. Parce que ça fait partie de ce qui est égorgé pour adhk Allah. Wa wajhu mutabaqati al-hadith li-tarjama la'nu man dhabaha li-ghayri Allah. Donc la relation entre le chapitre et le hadith, il est clair. C'est parce qu'il a maudit ici celui qui égorge pour autre qu'Allah. Et vous remarquez que dans les quatre, il a commencé par celui qui égorge pas autre qu'Allah. Parce que ça, c'est plus interdit que les trois autres. Parce que c'est pire, c'est du shirk. Donc en fait, pour reprendre, c'est quoi égorger pour autre qu'Allah, qui est interdit, qui rend la viande interdite? C'est si la personne, elle égorge, pas pour adorer quoi que ce soit, mais juste pour manger la viande. Et elle dit Bismi Abdel Qadir, Bismi le Badawi, Bismi le Masih ou quoi. C'est-à-dire, au lieu de dire Bismillah, elle dit un autre que le nom d'Allah. Il n'a pas fait d'adoration. C'est-à-dire, il n'a pas fait ça pour se rapprocher, pour adorer. C'est juste comme ça, pour manger la viande. La viande, elle est haram. Ça a été égorgé pour autre qu'Allah. Maintenant, s'il dit Bismillah, mais il égorge pour se rapprocher de autre qu'Allah. C'est juste qu'au moment où il égorge, il dit Bismillah, mais il fait ça devant la tombe, pour adorer la tombe, pour vénérer la tombe, etc. Là, la viande aussi, elle est haram, parce que ça a été voué à autre qu'Allah. Donc, c'est pas seulement dans le fait de dire Bismillah ou pas Bismillah. Parce que le dhabh, ça peut être une adoration. Maintenant, si il dit un autre que le nom d'Allah, et en plus, il le rapproche à autre qu'Allah, là, c'est pire. Donc, le muslim, en général, quand il dit Bismillah, donc la viande qui est halal, c'est quand le muslim, il fait ça, simplement pour manger la viande, en disant Bismillah, ou alors il le fait pour adorer Allah, comme pendant le jour de l'Aïd, etc., etc. Ensuite, on va, donc, le reste du hadith, il n'est pas en rapport avec le chapitre, mais c'est quand même intéressant. Il dit La'ana Allahu man la'ana waliday, qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Il dit Fassarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu al-Bukhari annahu qal. Donc l'explication de ça, ça veut dire quoi maudire ses parents? Il dit, et l'explication, elle est venue du prophète lui-même dans un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Le prophète, il a dit donc min al-kaba'iri shatmu ar-rajul walidayhi qalu ya rasul Allah wa hal yashtumu ar-rajul walidayhi qala na'am yasubbu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu. Yani le prophète, il a dit fait partie des grands péchés le fait que l'homme insulte ses parents. Donc les sahaba, donc regardez dans la tête des sahaba comment c'était loin d'insulter ses parents. Et ils lui ont dit, est-ce que quelqu'un, ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que quelqu'un il va insulter ses parents? C'est-à-dire, ils n'ont pas compris, puisque quelqu'un il est pour eux, il n'est pas censé insulter ses parents. Donc le prophète, il a dit oui. Il a dit, la personne, elle insulte le père d'un tel, donc un tel, il va insulter son père. Ou alors il insulte la mère d'un tel, donc un tel dont il a insulté la mère, il va insulter sa mère. Donc Cheikh, il dit, donc comment c'est lui qui a insulté ses parents? C'est parce que c'est lui qui a causé le fait qu'on insulte ses parents. Donc en insultant la mère de l'autre, il a poussé l'autre à insulter sa mère. Donc c'est comme si lui-même il avait insulté sa mère, parce qu'il a causé ça. وَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبًّا لَاعِنًا لِأَبَوَيْهِ بِتَسَبُّبِهِ إِلَى ذَلِكَ وَتَوَسُّلِهِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصُدُهُ. Donc le prophète, il l'a désigné lui-même comme ayant insulté et maudit ses parents, parce qu'il a causé le fait qu'on insulte et qu'on maudit ses parents, même s'il ne le voulait pas lui au départ. C'est-à-dire, il ne voulait pas que l'autre, il n'a pas fait exprès pour que l'autre il maudisse sa mère. Et pourtant, malgré ça, le prophète, il a dit que c'était lui qui avait insulté son père et sa mère. وَيُوجَدُ مَنْ يُبَاشِرُهُمَا بِالسَّبْ وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنْ يَتَوَلَّ لِبْنَ لَعْنَهُمَا نَفْسِهِ أَنْ يَتَوَلَّ لِبْنُ لَعْنَهُمَا بِنَفْسِهِ. Donc il dit, il existe malgré cela donc des gens qui insultent leurs parents directement. Il dit, et le hadith dans son sens apparent, il comprend aussi donc celui qui, l'enfant qui maudit ses parents directement par lui-même. فَلَعَنَا مَنْ نَتَقَ بِسَبِّهِمَا. Donc le prophète, il a maudit celui qui prononce une insulte vis-à-vis de ses parents. وَلَمَّا أَخْبَرَ أَنَّهُ إِذَا سَبَّ أَبَ الرَّجُلِ سَبَّ أَبَاهُ كَانَ كَمَنْ تَوَلَّ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ. Donc lorsqu'il a dit que celui qui insulte le père d'un tel, il est responsable du fait que l'autre il va insulter son père. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ جَازَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءٍ وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع. Donc, là, les ulama, ils en ont sorti une qaïda, c'est que ce hadith, c'est une preuve que celui qui est la cause d'une chose, on peut lui attribuer cette chose. même si c'est pas lui qui l'a fait, lam yubashira, c'est pas lui qui l'a fait directement, mais c'est lui qui en est la cause elle peut lui être attribuée directement. Un exemple, dans le hadith de Jibril, quand Jibril, donc Gabriel, il est venu poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les compagnons, et quand il est reparti, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Hadha Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Voilà Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Pourtant Jibril il leur a rien dit. Il a questionné le prophète, c'est le prophète qui a enseigné aux sahaba. Mais comme il a causé, parce que c'est lui qui a posé les questions exprès pour que le prophète leur enseigne, le prophète il a dit c'est lui qui vous a enseigné. Donc il n'a pas lam yubashir at-ta'lim walakin tasabbaba at-ta'lim. Fat-ta'lim yunsabu ilayhi. Donc il n'a pas enseigné directement aux autres, mais il a causé, il a été la cause de l'enseignement, donc l'enseignement il lui a été attribué. C'est une règle qu'ils ont dit. La'ana Allah man awa muhdithan. Ensuite il dit qu'Allah maudit celui qui donne refuge à un muhdith. Donc c'est quoi un muhdith? Il dit donc bifatḥ al-hamzati mamdūdatin wa huwa al-fāru al-farru al-mustaqiq al-mustahiq lil-ḥadd ash-shar'i. فيحول بينه وبين أن يقام عليه. Donc il dit al-muhdith ici, c'est celui qui commet un acte sur lequel il mériterait d'être puni par une peine légale. Comme par exemple un voleur qui mériterait qu'on lui coupe la main, un fornicateur qui mériterait d'être fouetté, un buveur d'alcool qui méritait d'être fouetté ou quelque chose comme ça. Donc si une personne awa muhdithan, il donne refuge à un muhdith, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'il empêche qu'on applique la peine légale sur la personne. C'est-à-dire, par exemple, un fornicateur, par exemple. Les témoins, ils ont témoigné, le juge, il a jugé. On va lui appliquer la peine. Hada, il vient, il dit non, c'est mon cousin. Et lui, par exemple, c'est un préfet. Il dit non, c'est mon cousin. Donc là, awa muhdithan. Il a empêché, il a protégé un muhdith, quelqu'un qui a commis un acte qui mérite une punition. Là, le prophète, il l'a maudit, celui qui fait ça. وفي الحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله في أمره. Et dans un hadith, le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui intercède en empêchant que soit appliquée une peine légale d'Allah, alors celui-là il s'est opposé à Allah. C'est-à-dire il empêche que la peine légale soit appliquée. Il vient et il fait shafa'a, shafa'a l'intercession. Par exemple, il vient au juge et il dit, par exemple c'est un commissaire, un préfet, un émir, il va voir le juge et lui dit Hadha, c'est mon cousin, il ne faut pas que tu lui appliques la peine. Donc c'est ça qui est voulu dans le hadith. Wa fil hadith, idha balagat al hudud al sultana fala'ana Allah al shafi'a wal mushaffa'. Subhanallah. Le prophète ici il a dit une fois que la peine a atteint le pouvoir, c'est-à-dire une fois que tout était réglé, le juge a réglé, ça va être appliqué al sultan, c'est-à-dire ici le juge. Il dit le prophète qu'Allah maudit celui qui intercède et celui pour qui on intercède. C'est-à-dire une fois que les témoins ont témoigné et l'affaire a été jugée, alors à ce moment-là qu'Allah nous maudisse celui qui vient intercéder en faveur du coupable et le coupable pour qui on a intercédé. Donc ça il a bien dit, c'est une fois que l'affaire elle est réglée. Dans les pays musulmans, ouais. Ça, c'est ça aussi, parce que tu sais, pourquoi tu vas l'empêcher d'être puni? Non, mais c'est juste dans les pays. Ça dépend, parce qu'ils n'appliquent pas la charia, certes. Par exemple, un tueur, ils ne vont pas le tuer, ils vont lui donner 30 ans, par exemple. Et toi, tu viens et tu dis au juge, ah, là, c'est mon cousin, donne-lui pas 30 ans. 30 ans, c'est moins grave que le fait d'être tué. Dans l'islam, normalement, il doit se faire tuer. Donc là, il a pris moins. Donc toi, c'est encore pire, tu as intercédé pour qu'ils ne se prennent même pas ce qu'ils auraient dû se prendre en vérité. Donc bien sûr c'est interdit, mais c'est une question qui vaut le coup d'être posée quand même. Ensuite il dit, non il continue, il dit قال ابن الأثير ويروى بكسر الدال وفتحها فمعنى الكسر. Donc là Ibn al-Athir c'est un savant qui a écrit un livre, ça s'appelle je crois c'est Nihaya fi Gharib al-Hadith. C'est un livre comme un dictionnaire sur les mots qui sont compliqués dans les hadiths. Par exemple, il ne va pas expliquer c'est quoi le mot kitab, le mot rajul. Non, il va expliquer par exemple c'est quoi muhdith ici. Parce que muhdith ici, il pose problème. Muhdith, c'est un mot qui peut laisser supposer plein de significations. Donc lui, il a fait un livre qui s'appelle Al-Nihaya et il met les mots et puis il les explique. Donc il dit, si on dit muhdith, parce qu'on peut dire muhdith ou muhdath avec un A. Donc il dit, man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu min khasmihi. Donc si c'est un muhdith, le hadith il concerne celui qui protège un criminel et qui empêche qu'on lui applique une peine légale ou alors qu'on lui demande ce qu'ils appellent comme ils disent la loi du talion. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه أعوذ بالله. Donc il dit, si on dit muhdath avec un A, il dit c'est les innovations, c'est le bid'a, c'est-à-dire les innovations dans la religion. Et il dit qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Qu'Allah me dit la'an Allah man awa muhditha ou muhdathan, pardon. Ça veut dire qu'Allah maudisse celui qui est satisfait de l'innovation et qui approuve l'innovation. Parce qu'une fois qu'il est satisfait de l'innovation et qu'il n'a pas blâmé l'innovateur, eh ben, en arabe, faqad awahu, il lui a donné refuge par rapport au mot qu'il y a ici en arabe, awa. C'est-à-dire le mot awa, awa muhdathan, ça veut dire il a approuvé, il ne lui a rien dit. Et il a approuvé l'innovation. Donc ça montre l'erreur de ce que je vous disais hier. Donc des groupes qui s'apparentent à Ahl Sunnah wa Jama'a et qui se mélangent avec tous des groupes innovateurs. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appris aux musulmans la'an Allahu man awa muhdathan. Ça veut dire le musulman il dit pas à propos des innovations c'est pas grave etc. On marche ensemble pour la da'wa, on est tous des musulmans blablabla bla bla, comme ils font maintenant. Ou alors ils font une conférence. Ils se réclament tous de Sheikh Ibn Baz, Sheikh Albani, et ils invitent Ali Jifri, par exemple. Donc ça, c'est tout ça, c'est contraire au hadith. La'an Allahu man awa muhdathan. Non. Ça fait partie de l'aqidah d'Ahl Sunnah. As-salatu khalf al-imam al-fajir, ils disent. Donc c'est-à-dire, fait partie de la aqidah Ahl Sunnah, le fait que tu as le droit de prier derrière un imam fajir. Fajir, ça veut dire innovateur, pervers, tout ce que tu veux. Tu as le droit de prier derrière. À condition, parce que le bid'a, je divise en deux. Il y a bid'a mufassiqa et bid'a mukaffira. Ça veut dire, il y a les innovations qui sont considérées donc, comme du fisq. Donc c'est des péchés, mais qui ne font pas sortir de l'islam. Comme, je ne sais pas, moi, par exemple, pas trop d'exemples. Et il y a le bid'a al-mukaffira. C'est une innovation qui est considérée comme de la mécréance. Comme par exemple le fait de tawassul par les morts. Ou le fait d'invoquer les morts. Ça c'est une bid'a dans la religion. Et en plus c'est du kufr. Donc si l'imam, c'est un mubtadi' bid'atan mufassiqa, c'est-à-dire il commet une bid'a mufassiqa, par exemple c'est un tabliri. Il se réclame de jama'a tout tablir. Sachant que se réclamer d'une jama'a autre que celle des salafs, c'est interdit dans l'islam. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Le prophète il a dit, Allah il a dit donc, dans le sens du verset, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont en groupe, ils n'ont rien à voir avec toi. Donc le musulman il n'a pas le droit d'inventer une jama'a et de dire sururi, tabliri, ikhwani, ça c'est interdit dans l'islam. Yassini, il fait une jama'a et il s'apparente à ça. Si ce n'est salafi, salafi c'est pas une jama'a, salafi parce que salaf c'est les compagnons et le prophète, donc c'est pas un intisab, c'est-à-dire une jama'a. Donc, par exemple, c'est un tabliri par exemple. Tu peux prier derrière, parce que le tablir c'est pas du kufr, c'est de la bid'a, quelque chose comme ça. Mais si maintenant c'est un jahmi, un vrai jahmi, il dit ma kallam Allah Moussa taklima, il dit je sais pas moi, il dit plein de paroles de kufr. Là, tu n'as pas le droit de prier derrière. Parce que c'est une bid'a mukaffira. Voilà. Ou alors, il dit par exemple, C'est un qadari bin ghulat al-qadariya. C'est un qadari pur. Il dit, Allah ne connaît pas les actes des êtres humains tant qu'ils ne les ont pas faits. Là, tu ne pries pas non plus derrière lui. Parce que ça, c'est une bid'a ou kafira, c'est du kufr. Donc c'est, mais sinon, prier derrière un mubtadi'a, tu as le droit. Donc prier dans une mosquée, un mubtadi'a, tu as le droit. Le ulama, il dit simplement, s'il y a une mosquée avec Ahl Sunnah plus nombreux, c'est mieux de prier avec Ahl Sunnah. Ça, c'est un peu, c'est assez évident, quoi. Et aussi, mais s'il y a des innovations dans la mosquée, donc ça, il appartient au Tullabain, aux étudiants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas parmi nous de Tullabain. C'est-à-dire, je ne connais pas des vrais Tullabain. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre d'aller voir les gens, l'imam ou quoi, et de faire une munaqasha pour lui dire ça, c'est une bid'a. Parce que ça, normalement, c'est le devoir des gens. C'est-à-dire, celui qui a la science, il doit aller. Tu ne peux pas prier dans une mosquée où ils font des bid'a et tu te tais. Ça, c'est interdit. Celui qui a la science, il doit aller parler. À condition qu'il ne va pas avoir en conséquence pire. Ça veut dire qu'il va aller parler, résultat, ils insultent la sunna, ils empêchent les barbus de prier dans la mosquée. Donc là, c'est pire que ce que leur bid'a, la conséquence. Donc là, il vaut mieux que tu te taises. Mais s'il n'y aura pas de mauvaises conséquences, tu vas leur parler à condition que tu aies la science de pour leur parler. Si tu n'as pas la science, le prophète, il a dit... Celui qui voit parmi vous un mal, qu'il le change avec sa main. Ça, c'est sultan, celui qui a le pouvoir, le juge, le gouverneur. Lui, il peut changer avec sa main. C'est-à-dire, il peut taper, il peut détruire le truc, il peut faire ce qu'il veut. Le prophète, il a dit ensuite, celui qui ne peut pas changer avec sa main, qu'il le change avec sa langue. Donc avec le da'wa, avec le rappel, le munaqasha, le débat, le jidel, l'argumentation. Celui qui ne peut pas, c'est avec son cœur. Donc c'est pas tous les innovateurs que tu vois, il t'est obligatoire de tous les. De tout. Chaque fois que tu en entends un sur internet, il t'écoute toutes ces cassettes et tu toutes ces erreurs. Et tu me dis, ouais, comme ça ressemble à ça m'est arrivé. Un frère m'a dit, je suis un ignorant. Et après, il m'a dit, je prends toutes les cassettes d'un tel sur internet et je lui prépare un rad. Je dis, bah si t'es un ignorant, comment tu fais? Il m'a dit, ouais, mais ignorant. C'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas pour me moquer. C'est qu'il faut comprendre. Chacun y a sa place. C'est pas parce que toi, ça y est, t'es un sunni qui t'est obligatoire de répliquer au mubtadi'a. Ça t'est obligatoire dans une condition. C'est le cas où t'as la science pour le faire, parce que le prophète, il a dit celui qui peut. Celui qui peut le faire, qu'il le fasse avec sa langue. Et il a dit celui qui ne peut pas, qu'il le fasse avec son cœur. Donc si t'as pas la science, toi t'es celui qui peut pas, donc tu le fais avec ton cœur. Ou alors tu peux, t'as la science, mais il va arriver une catastrophe si tu le fais. Ou alors il y a quelqu'un d'autre que toi qui peut le faire et qui l'a déjà fait. Donc là c'est plus obligatoire. Donc ça c'est pour éviter les fitaines, etc. Ensuite il dit قال ابن القيم هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه. Donc il dit ce grand péché qui est le fait d'approuver les innovations, il diverge par rapport au degré des innovations elles-mêmes. فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. Donc plus l'innovation elle est grande, plus le péché de l'avoir approuvé il est grand. Ou alors pour le muhdith, celui qui a commis un crime, plus le crime qu'il a commis il est grand, plus celui qui va intercéder pour lui, son péché il est grand. Donc on finit ce hadith. Il dit ensuite La'ana Allah man ghayyara manara al-ard. Qu'Allah maudisse celui qui change les signes de la terre, les signes qu'il y a dans la terre. Il dit Alamat wa hududiha awqid ay qaddama aw akhara liyaghtasiba min ard jarihi. Donc ça c'est celui qui change les limites des terres pour avoir du terrain de son voisin. Donc il vient à la nuit en traître, il change les terres, les traits ou les panneaux et tout, comme ça il gagne des mètres carrés.
سميت منارا لإنارتها بين الحق بين الحقين أو حجزها وتمييزها بينهما بين pardon
c'est comment de...
بين الحقين pardon أو حجزها وتمييزها بينهما فيكون من ظلم من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من ظلم شبرا من الأرض tawaqahu min sab'i ardina yawm al-qiyamah.
Donc ça fait partie du fait d'être injuste envers la terre. Et le musulman n'a pas le droit d'être injuste envers la terre, comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est injuste envers un empan de terre, Allah le fera. Tawaqahu, ça veut dire quoi? Il y a les arabophones. Tawaqahu, j'ai pas compris là. J'avoue. Tawaqahu, parce que je l'avais pas vu avant de venir. Min sab'i ardina yawm al-qiyama. Je sais pas, Allah, j'arrive pas à le traduire. طوقه من سبع أرضين يوم القيامة جل الله عليه متفق عليه. Donc là je vais aller vite parce que on va finir avec ça. Donc le cheikh il répète, donc c'est le fait de changer les signes des terrains etc pour prendre le bien de son voisin. Il dit ici وفيه الفرق بين لعن المعين وَلَعْنِ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ. Il dit, ça montre la différence dans ce hadith entre le fait de maudire quelqu'un précisément et le fait de maudire un groupe. C'est-à-dire que beaucoup d'ulama ils disent, t'as pas le droit de maudire quelqu'un précisément. Comme par exemple, tu sais que quelqu'un il approuve la bid'a, tu viens et tu dis, donc le prophète il a dit, لَعْنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدَثًا. Donc moi je dis, لَعْنَتُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Ça non, parce que tu peux pas le maudire lui. Parce que le maudire, ça implique le fait que tu lui souhaites qu'il soit loin de la miséricorde d'Allah. Or, qui te dit qu'il ne va pas se repentir? Tu ne sais pas, peut-être il va mourir mieux que toi. Peut-être toi, tu vas devenir Mubtadi et lui, il va finir Sunni. Donc, il faut avoir peur d'Allah et tu ne peux pas le maudire. Mais tu maudis de façon générale. Et tu peux maudire de façon générale quand tu vois. Comme c'est pour ça que le prophète Sarsim, il a parlé des femmes. Il a dit, j'ai vu des gens de ma communauté que je n'ai pas encore vus, qui sont parmi les gens de l'enfer. Il a dit les femmes qui se dandinent avec des bosses de chameau sur la tête, qui sont habillées mais en fait elles sont déshabillées. Et il a dit quand vous les voyez, maudissez-les. Donc beaucoup d'ulama ils disent ça ne veut pas dire la fille, tu lui dis la'anatullah alayk. Ça veut dire quand tu la vois, tu dis qu'Allah maudisse celles qui font ça. C'est-à-dire quand tu les vois, tu maudis le groupe en fait. Et tu ne maudis pas la personne en particulier. Même si, bon, si vous entendez un frère dire sur quelqu'un la'anatullah alayk, c'est pas un mubtadi' ou... Il faut simplement lui expliquer ça. Mais il y a des ulama qui ont dit, même quelqu'un en particulier, tu as le droit de le maudire. Donc c'est intéressant de savoir les divergences pour savoir que ça a été dit quoi. Il y a des ulama qui l'ont dit. Donc ben voilà, ben c'est ce qu'il dit ici. Il dit Fal hadith ou dalilun ala jawazi la'ni anwa' al fussaq. Le hadith il montre qu'il est licite de maudire les différentes catégories des pécheurs. كقوله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. Comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui vole, il vole un œuf et on lui coupe la main. وأما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز اختاره ابن الجوزي. Donc en ce qui concerne le fait de maudire quelqu'un en particulier, certains ont dit que c'était permis, comme Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, qu'il ne faut pas confondre avec Ibn Qayyim al-Jawziya. C'est deux savants différents. Ibn al-Jawzi, ça c'est un savant de Bagdad, c'est celui qui a écrit Talbis Iblis. Et il y a Ibn Qayyim al-Jawziya, ça c'est quelqu'un d'autre, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Wa qila la yajuz ikhtarahu Abu Bakr ibn Abu Bakr Abdul Aziz wa Sheikh. Wa Sheikh Abdul Mughith wa sannafa fihi thalika musannafan dhakarahu anhu Sheikh. Donc et d'autres ils ont dit que c'était interdit. Parmi eux, donc il a cité plusieurs. Ceux qu'on connaît, c'est Ibn Taymiyyah et un sheikh. Donc il a écrit parmi là, il a cité des noms de savants de l'école Hanbalite. Et un d'entre eux, il a écrit un livre spécialement sur ça. Et il a dit que c'est ça l'opinion connue de l'imam Ahmed. Donc on s'arrête là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.